l'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création d'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
La restime de sirène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Le 2 mai 2012, événement climatique extrême en Languedoc depuis l'an 1000. Le Languedoc-Roussillon est particulièrement exposé à l'aléa climatique, crues et venoles violentes et risques d'érosion et submersion du littoral en période de tempête. Ces risques sont lourds d'enjeux sociétaux. En prélevant des sédiments par carottage dans les deltas ou les étangs littoraux, on dispose d'une archive sédimentaire où se sont inscrites les crues et les tempêtes. Les premiers résultats montrent que la fréquence de ces extrêmes augmente très clairement en période froide. On cherche ainsi à savoir si les crues cévenoles et les tempêtes récentes s'inscrivent dans l'évolution perceptible du climat actuel et ce qu'il est possible d'en déduire pour notre futur climat. Laurent Desilots, maître de conférence à Géosciences Montpellier, Université Montpellier 2, présentera ses recherches dans ce nouveau numéro de l'Agora des Savoirs.
Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je souhaite remercier bien sûr la mairie de Montpellier hein, qui m'a invité dans le cadre de cette série de séminaires de l'Agora des Savoirs. Et aussi, hein, je vous remercie tous d'être venus ce soir hein, malgré cette programmation télévisuelle à Fort Audimat. Donc, je vais vous présenter hein, des travaux que nous avons commencé déjà depuis quelques années, hein, depuis plus particulièrement l'année 2003, l'année de mon arrivée à Montpellier, sur la reconstitution des événements météorologiques extrêmes, crues et tempêtes, en Languedoc depuis l'an 1000. Alors, vous avez ici une photo aérienne qui vous présente notre cher et tendre cordon littoral entre Palavas et Frontignan. Vous avez le golfe d'Aigues-Mortes à droite et vous avez ici les étangs palavasiens et plus exactement ici, c'est l'étang de Pierre-Blanche. Alors vous pouvez constater que sur ce cordon littoral existent des cônes sableux. Ces cônes, on les appelle en fait des cônes de tempête. Ces cônes de tempête sont liés à une submersion du cordon littoral en période de tempête. Vous avez des sables qui sont transportés de la mer vers l'intérieur des lagunes en période de tempête. Donc, vous verrez, je détaillerai ça dans la présentation, comment on peut reconstituer ces tempêtes du passé à partir de l'étude de carottage que l'on réalise dans les étangs ici, qui sont en continuité de ces cônes sableux. Alors, quel est le contexte général de ces études? Eh bien, si on regarde le rapport 2007 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, eh bien, tout ce qui touche au réchauffement du système climatique est caractérisé comme sans équivoque. C'est une quasi-certitude. Alors, vous avez ici, sur ce graphique, l'anomalie de température enregistrée depuis 1880 jusqu'à 2010. Et en effet, on constate cette augmentation progressive des températures au cours du XXe et début du XXIe siècle. Dans ce rapport, quand on regarde cette fois-ci le lien possible entre événements météorologiques extrêmes et changements climatiques récents, eh bien, cette fois-ci, dans ce rapport, il est caractérisé comme étant probable. C'est-à-dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on ne sait pas trop, en fait. Et pourquoi on ne sait pas? Tout simplement, parce qu'un événement météorologique intense, c'est un événement qui est par essence rare et donc difficile à observer à l'échelle d'une vie humaine. Hein, très clairement, on manque de recul dans le temps pour voir une quelconque évolution statistique de ces événements de très forte intensité et d'amplitude. Donc, hein, ce mot-clé, c'est le manque de recul dans le temps. Or, il est très important, bien sûr, d'étudier ces événements. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un impact socio-économique très fort. Alors, je vous donne ici un exemple de l'ouragan Katrina aux États-Unis. L'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans avait un rayon de 650 km, c'est-à-dire un diamètre total de 1300 km, en gros la taille de la France. Les vents dans l'œil du cyclone étaient de 300 km/h et ce cyclone a généré une houle et des vagues de 11 mètres de hauteur. L'impact a été très important, 1500 victimes et un coût estimé à 150 milliards de dollars. Alors, au niveau régional, nous avons aussi des événements de forte intensité, comme les événements Cévenol ou les événements méditerranéens. Alors, je vous cite ici deux exemples. Un exemple d'une inondation, la crue de 2002 sur le Gard. La crue de 2002 sur le Gard, c'est 3,6 milliards de mètres cubes d'eau qui sont tombés sur le haut bassin versant du Gardon. Alors, 3,6 milliards de mètres cubes, ça représente trois fois le barrage, la contenance du barrage de Serre-Ponçon, qui est un des barrages les plus importants en Europe. Vous avez eu 7000 maisons endommagées, 1500 dont le toit est sous 2 mètres d'eau, un coût supérieur à 1 milliard de dollars et là encore de nombreuses victimes. Concernant cette fois-ci les problèmes de submersion en période de tempête, vous avez par exemple l'événement de 1982, avec des vents supérieurs sur le littoral à 180 km/h, une surcôte de 1,50 m, de nombreuses ruptures de cordon littoral, et là, un coût qui est estimé à 500 millions de dollars, et là encore, de nombreuses victimes. Alors, ces événements régionaux sont associés à ce qu'on appelle soit des événements méditerranéens ou soit des événements Cévenol. Alors, juste pour rappel, de manière très très simplifiée, ce qu'est un événement Cévenol. Un événement Cévenol, c'est la rencontre entre une masse d'air chaude et humide qui provient de la mer Méditerranée et qui vient rencontrer une masse d'air froide et sèche qui provient du nord. La confrontation de ces deux masses d'air va générer des cumulonimbus. Alors ce processus fortement précipitant est amplifié par le relief. La présence ici des Cévennes va provoquer aussi une déviation vers l'altitude, vers la haute altitude de cette masse d'air chaud et humide qui va se refroidir et générer une précipitation encore plus intense. Alors vous avez ici sur ces deux cartes du bas une étude faite par des collègues de Météo France qui ont fait une étude statistique sur l'origine de ces masses d'air chaudes et humides et vous pouvez constater que ces événements sont vraiment associés à des flux de sud à sud-est. Alors, la grande question qu'on se pose, une des grandes questions que l'on se pose, qui concerne la région, mais aussi de manière plus générale d'autres événements sur la planète, c'est est-ce que ces épisodes météorologiques de forte intensité sont liés au changement climatique récent, ou bien font-ils partie de la variabilité naturelle du climat ? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, on est obligé de prendre du recul dans le temps. Et un des moyens de prendre du recul dans le temps, c'est d'étudier des archives sédimentaires ou des archives textuelles historiques. Alors, on va travailler, là je vais vous présenter un certain nombre de résultats sur la reconstitution des tempêtes du passé au niveau régional. Alors pour cela, on va étudier les archives sédimentaires lagunaires. Alors comment ça marche ? C'est assez simple en fait. Ces lagunes se comblent par du matériel sédimentaire qui provient du bassin versant en période de crue et vous avez des sables qui proviennent du cordon littoral en période de tempête. Donc l'idée était de tenter de reconstituer ces crues et tempêtes du passé à partir de l'étude d'archives sédimentaires, de carottes sédimentaires extraites de ces lagunes. Alors ça, c'était mon idée assez simple quand je suis arrivé ici en 2003. On m'a dit, on m'a prévenu, attention Laurent, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Reviens sur la zone en période de Mistral ou de Tramontane. Alors je suis revenu sur zone en période de Mistral et Tramontane, et c'est vrai, hein, en ces périodes, les vents sont forts, et donc vous avez une circulation qui est assez forte dans ces lagunes, et des remises en suspension. Donc a priori, il n'était pas évident que l'on puisse reconstituer ces crues et tempêtes du passé à partir de l'étude d'archives sédimentaires. Hein, le signal aurait pu être complètement perturbé. Donc l'objectif, ça a été de comprendre comment fonctionnaient ces milieux lagunaires pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce que ces lagunes enregistrent des événements climatiques extrêmes? Alors, il y a eu tout un travail d'études, à la fois sur le bassin versant, mais à la fois dans les lagunes, sur le cordon littoral, avec des échantillonnages du matériel sédimentaire dans les lits de rivière à l'étiage ou en période de crue, pour essayer, hein, l'objectif derrière, c'est de caractériser ce matériel sédimentaire en période de crue et de tempête. Alors, d'autres travaux sont faits, hein, en continu depuis quelques années, avec des carottages courts de manière régulière dans l'année sur ces étangs. Nous avons aussi positionné un certain nombre d'instruments dans ces lagunes pour mesurer l'évolution de la bathymétrie, la direction des courants, la turbidité aussi, les variations de hauteur d'eau, la direction des vents, et nous collaborons avec Ifremer pour mettre en place des modèles hydrosédimentaires pour voir un petit peu quels sont les processus dominants lorsqu'on a une crue ou une tempête sur le comblement de ces lagunes. Alors, bien sûr, notre objectif, c'est de revenir dans le temps. Et pour cela, donc, nous effectuons des carottages. Alors là, vous avez une photo d'une mission de carottage dans les temps de Pierre Blanche, au sud de Maguelone. Et cette plateforme de carottage, UVITEC, permet de prélever des carottes de 2 mètres de longueur. Donc, on prélève une carotte entre 0 et 2 mètres, puis 2 et 4, 4 et 6, et 6 et 8. On s'est arrêté dans les temps de Pierre Blanche à 8 mètres de profondeur. Donc on a 8 mètres d'archives sédimentaires qui sont représentées ici sur cette photo. Alors, objectif, reconstituer des tempêtes du passé. Alors pour cela, on va utiliser plusieurs traceurs. Je vais vous en présenter deux, hein, qui sont assez simples à comprendre. Vous avez l'étude granulométrique, c'est-à-dire l'étude des grains du matériel sédimentaire. Donc sur cette première figure, en haut, vous avez une étude du matériel sédimentaire qui a été prélevé à l'interface au sédiment, côté mer et côté lagune. Ici, vous avez en fait une coupe du cordon littoral avec la lagune sur la gauche, le cordon littoral ici et le côté mer. Ce que vous avez ici représenté sur ce premier graphique, c'est la proportion de la fraction supérieure à 100 micromètres. C'est-à-dire les sables grossiers. Et vous avez ici un pourcentage, on ne voit pas très bien les ordonnées, mais bien sûr, on a un très fort pourcentage de sable côté mer, donc là, on n'invente rien. Et cette proportion de sable va diminuer progressivement dès que l'on s'oriente, dès que l'on se déplace à l'intérieur de la lagune. Sur ce deuxième graphique, vous avez la distribution du matériel fin, c'est-à-dire les argiles et les silts. Donc rien côté mer, et une augmentation de la proportion des silts et des argiles vers la lagune. Les lagunes se comblent principalement par du matériel fin qui provient du bassin versant. Deuxième traceur, vous verrez comment en utilisant les deux on arrive à reconstituer ces tempêtes du passé, l'étude de la malacofaune, c'est-à-dire l'étude des gastéropodes et des bivalves que l'on trouve. Donc vous avez ici deux grandes familles, les bivalves et les gastéropodes associés au milieu marin et les bivalves et gastéropodes associés au milieu lagunaire. Alors toujours sur ce même graphique, lagune à droite, cordon littoral et vous avez ici donc la mer, côté mer, la proportion de bithium. Alors bithium, c'est un gastéropode marin qui vit sur les posidonies en pleine mer et une fois que ce gastéropode meurt, il se met à flotter et vient s'accumuler en bourrelet le long du cordon littoral. ce que vous observez ici. Cette proportion de gastéropodes marins va diminuer très très rapidement dans la lagune. Concernant Hydrobie, qui est un gastéropode cette fois-ci lagunaire, eh bien, on n'en trouve pas côté mer et on va avoir une augmentation de cette espèce à l'intérieur de la lagune, ce qui est normal. Alors, vous avez ici l'étude d'un carottage. Alors, ce carottage a été prélevé dans la lagune, à 500 mètres derrière le cordon littoral. Nous nous trouvons dans la lagune. Vous avez ici donc les résultats sur une archive sédimentaire courte qui fait 1 mètre de profondeur. Vous avez ici la granulométrie sableuse. Vous avez ici la faune marine caractérisée par le nombre de bitumes trouvés. Et vous avez ici la faune lagunaire hydrobie. Vous pouvez constater qu'à la base de cette archive, là, aux alentours de 90 à 100 cm, c'est-à-dire en gros 1 mètre de profondeur, eh bien, on observe un pic sableux. Ce pic sableux, on l'associe à un événement de tempête, c'est-à-dire submersion du cordon littoral et transport du sable de la mer vers l'intérieur de la lagune. Le cordon littoral est ouvert, les conditions environnementales aux abords de ce cordon littoral deviennent un petit peu plus marines et on trouve la présence, sur cette archive sédimentaire, de l'espèce bitium, qui est ce gastéropode marin. De manière naturelle, le cordon littoral se referme, les conditions environnementales deviennent plus lagunaires et vous avez le développement de l'espèce hydrobie. Donc on forme ici une séquence associé à un événement de tempête. Si on regarde le reste de cette archive sédimentaire, donc plus on revient vers la surface, plus le temps, je dirais, s'approche de nous, en fait, on observe un deuxième événement avec un pic granulométrique sableux, un pic de faune marine bitium et un pic de faune lagunaire hydrobie. Et si on remonte encore un peu, on trouve un troisième événement avec un pic de sable, un pic de faune marine bitium et un pic de faune lagunaire hydrobie. Donc sur cette carotte courte qui fait 1 mètre de profondeur, eh bien on observe trois événements que l'on associe à des événements de tempête. Alors ça, ce sont les résultats sur une archive sédimentaire prélevée dans une lagune à 500 mètres du cordon littoral. L'objectif, c'était de voir aussi si on retrouvait ces trois événements sur une surface spatiale un petit peu plus importante. Donc, nous avons effectué un certain nombre de carottages dans l'étang de Pierre-Blanche, dans l'étang du Prévost et l'étang du Méjean. Et je vous présente ici les résultats. C'est un petit peu ce que vous avez ici, c'est la variation granulométrique sur différents carottages de différents étangs. Et on observe, donc dans l'étang du Prévost, par exemple, sur des archives sédimentaires courtes, là encore, qui font 1 mètre de profondeur, 1, 2, 3, 3 événements. Alors, on peut constater que l'événement de base, ici, est observable sur l'ensemble des étangs, ainsi que cet événement qui est à la surface, là, quasi. Par contre, cet événement intermédiaire n'est pas retrouvé sur l'ensemble des archives sédimentaires, ce qui fait penser que l'on a affaire à un événement de plus faible amplitude. Alors, donc ça c'est le premier travail, c'est d'essayer d'identifier différents événements sédimentologiques liés à des événements de tempête. L'autre objectif, c'est de dater ces événements. Alors pour dater ces événements, on a plusieurs outils chronologiques. Le césium-137, par exemple. Alors, le césium-137, qu'est-ce que c'est ? C'est un isotope radioactif artificiel. Il est principalement lié aux essais nucléaires atmosphériques. Et ce qui est très important dans l'approche de cet outil, c'est son historique. Donc, vous avez ici un graphique qui vous présente en abscisse les années, toutes les années depuis 1954 jusqu'à 1996, et en ordonnée ici, l'activité en césium-137, c'est-à-dire en gros la concentration. Alors ça, ça a été mesuré sur des poussières atmosphériques à Orsay, une ville qui se situe au sud de Paris, tous les ans. Alors l'historique des essais nucléaires, hein, comme vous le savez, 1945, la première bombe à uranium et plutonium, le panache de radioactivité reste dans la basse troposphère et vous avez une pollution radioactive principalement régionale. À partir de 1953 est inventée la bombe H ou la bombe thermonucléaire qui est 1000 fois plus puissante que la bombe à uranium et plutonium et cette fois-ci le panache de radioactivité arrive dans la très haute atmosphère. Dans la très haute atmosphère, vous avez des vents violents que l'on appelle des jets qui vont redistribuer cette radioactivité sur l'ensemble de la planète. C'est à partir de 1953 que l'on trouve les premières pollutions césium-137, à la fois dans les glaces du Groenland que dans les lacs de Patagonie, par exemple. Donc l'historique, depuis 1953 jusqu'à 1963, on a une augmentation progressive de l'activité en césium-137 atmosphérique liée à l'augmentation des essais nucléaires atmosphériques. 1963, un moratoire est signé. Il est interdit de faire des essais nucléaires atmosphériques. Tout devient souterrain, sauf pour la France et la Chine. Et cette activité, on voit que cette activité en césium-137 va diminuer jusqu'en 1986 pour l'Europe avec Tchernobyl. Donc nous avons mesuré le césium-137 dans une archive sédimentaire qui est localisée dans la lagune de Pierre-Blanche, ici, au sud de Maguelone. Et donc, vous avez donc ici en ordonnée la profondeur de la carotte, et ici, vous avez l'activité en césium-137. Donc, on retrouve ce profil de césium-137 historique avec ce pic que l'on associe à l'événement de 1963, qui est la signature du moratoire, qui se situe en gros à 12 cm. On connaît la profondeur, on connaît l'âge, on peut donc en déduire une vitesse de comblement ou une vitesse de sédimentation. Ça, c'est très important pour déterminer après des âges pour chaque profondeur. Alors, cette vitesse de comblement, elle est de l'ordre de 2,6 mm par an. Si on discerne aussi l'événement de Tchernobyl, mais de manière plus difficile, je dirais quand même. Alors, un autre outil, le plomb 210. Alors, le plomb 210, c'est un isotope radioactif, mais naturel cette fois-ci. Alors, comment ça marche ? Dans les sols, vous avez la présence d'uranium de manière complètement naturelle. Cet uranium-238, par décroissance radioactive, va donner un certain nombre d'isotopes, dont le radium-226, puis le radon-222. Le radon-222 est un gaz qui s'échappe à travers les interstices des sols pour rejoindre l'atmosphère. Ce radon-222 va, par décroissance radioactive, donner du plomb-210 atmosphérique. Ce plomb-210 atmosphérique est très réactif vis-à-vis des particules sèches humides, c'est-à-dire les pluies par exemple, et va sédimenter très rapidement et se déposer au niveau des sédiments dans les lacs par exemple ou les lagunes. Donc ce plomb-210 atmosphérique a une période de l'ordre de 22 ans. Au bout de 5 fois cette période, il a complètement disparu. C'est-à-dire au bout de 100 ans, ce plomb-210 atmosphérique est nul. Donc ça nous permet d'avoir une idée sur les vitesses de sédimentation au cours des 100 dernières années. Alors vous avez là encore, par exemple, sur une archive sédimentaire prélevée dans l'étang de Pierre-Blanche, donc la profondeur, l'activité en césium, bon, sur une échelle logarithmique, si les points s'alignent, cela veut dire que les vitesses de sédimentation, les vitesses de comblement sont quasi constantes et tournent autour, ici on l'estime, à 2,7 mm par an. Avec le césium-137, on trouvait 2,6 mm par an. Avec le plomb-210, on trouve 2,7 mm par an. On a une cohérence entre deux traceurs chronologiques complètement différents. Ça, c'est très satisfaisant. Cela veut dire qu'on va pouvoir mettre des âges de manière relativement fine sur nos archives sédimentaires. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de la plateforme de carottage UVTEC, nous avons prélevé jusqu'à 8 mètres de sédiments dans la lagune de Pierre-Blanche. Donc cette fois-ci, on remonte beaucoup plus loin dans le temps. Vous avez ici la profondeur. Nous faisons des datations au carbone 14 cette fois-ci. Donc vous avez ici en abscisse l'âge et vous pouvez constater que la base de notre carotte sédimentaire aux alentours de 7 mètres de profondeur est datée en gros à 7000 ans. On a 7000 ans d'histoire enregistrée dans ces archives sédimentaires. Alors vous pouvez constater aussi que l'on a une vitesse de sédimentation qui va progressivement augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Alors, nous avons identifié des événements de tempête à partir d'études de la granulométrie, à partir de l'étude de la malacofaune. Nous avons des outils géochronologiques pour pouvoir donner des dates à chacun de ces événements. Nous travaillons en plus avec un historien qui va nous permettre d'affiner ces âges à partir de l'étude des documents historiques, des archives départementales. Alors, je reviens sur mes trois premiers événements. Alors, vous avez ici les résultats, donc notre fameuse carotte qui fait 1 mètre de profondeur, où nous avons ici le premier événement, le deuxième événement et le troisième événement de tempête. Ce premier événement à la base est daté du 4 septembre 1742. Alors, c'est une tempête qui est enregistrée dans de nombreuses villes du golfe d'Aigues-Mortes comme étant un événement majeur. C'est d'ailleurs probablement l'événement le plus puissant que l'on a eu au cours de ces 300 dernières années. Les terres qui avaient été gagnées sur la mer ont été perdues à ce moment-là. On a une ouverture, plusieurs ouvertures du cordon littoral. Et cette ouverture du cordon littoral que l'on observe sur les cartes Cassini nous fait dire qu'ils sont restés ouverts pendant une vingtaine d'années, c'est-à-dire que l'impact sur le cordon a été vraiment très important. Le deuxième événement est associé à la tempête de 1848. Alors là encore, un certain nombre d'archives textuelles attestent de cette tempête de 1848. Je vous donne ici l'exemple d'une épave d'un navire marchand qui a été trouvée au large des Arresqués. L'histoire de cette goélette, c'est une goélette qui partait de Marseille avec du savon de Marseille et de l'huile d'olive pour les Antilles. Donc ce sont des bateaux qui sont résistants aux intempéries de l'Atlantique et qui malheureusement est venu s'échouer au large des Arresqués. Et enfin, vous avez la tempête de 1893, du 21 septembre 1893, qui a généré la dévastation du port de Sète. C'est à partir de cet événement, d'ailleurs, qu'il va y avoir une surprotection du port de Sète. Alors, on trouve ça aussi dans les archives historiques, des trains couchés par la violence du vent. Alors, de manière assez intéressante, l'événement de tempête que nous avons connu à notre échelle de temps à nous, que vivant, c'est la tempête de 1982. Or, cette tempête de 1982 n'est pas visible sur cette archive sédimentaire. Alors, comment l'expliquer? Alors, ce qu'il faut voir ici, cette tempête-là a généré, là encore, vous pouvez le voir, des cônes de tempête. Toutefois, comme je vous le disais précédemment, cette archive sédimentaire a été prélevée 500 mètres derrière le cordon littoral et ne va enregistrer que les événements les plus intenses. Donc cela veut dire que ces événements que l'on enregistre ici sont des événements beaucoup plus puissants que la tempête de 82. Alors, on a fait des carottages proches du cordon littoral et on trouve des traces de la tempête de 82, mais seulement sur une dizaine de mètres derrière le cordon littoral. Ces tempêtes-là ont laissé des traces jusqu'à 500 mètres derrière le cordon littoral. Donc nous avons écrit une publication et nous les appelons d'ailleurs des super tempêtes, c'est-à-dire des tempêtes d'une puissance non connue au cours du XXe siècle. Donc sur cette photo aérienne, on voit d'ailleurs les traces laissées par la tempête de 1982, où on voit en effet des cônes sableux qui sont laissés principalement sur le cordon littoral, qui rentrent quelquefois dans la lagune, mais sur des distances qui sont relativement peu importantes. Alors, l'étude d'une autre archive sédimentaire, toujours dans ces lagunes, mais cette fois-ci, un peu plus profonde. Cette fois-ci, on a une archive ici qui fait jusqu'à 3 mètres de profondeur, un peu moins. Alors, on retrouve nos trois événements. Là encore, on est 500 mètres derrière le cordon littoral. Puis plus rien, puis un autre événement à 850 après Jésus-Christ. Alors, quand on voit ça, on a envie de faire cela. C'est-à-dire d'en déduire qu'il existe des périodes inactives où les tempêtes sont d'intensité relativement faible et peu nombreuse, puis des périodes un peu plus actives, oui, puis inactives. Alors c'est très dangereux de dire ça. Pourquoi ? Parce que cela voudrait dire que la morphologie du cordon littoral n'a pas drastiquement changé au cours de l'ensemble de cette période. Donc ça, c'est des choses que nous avons regardées. Et nous avons eu beaucoup de chance sur notre zone d'étude à partir de l'étude de cartes anciennes. Alors, vous avez ici les résultats de cartes en 1819, 1938, 2008. Vous avez ici le cordon littoral. Vous avez ici le canal Ronset représenté sur l'ensemble des trois cartes ici. Et ici, justement, l'endroit où nous avons réalisé nos carottages, eh bien, vous avez la position entre la distance entre le canal et la plage, 820 mètres. En 2008, on a 790 mètres. Donc ce cordon littoral, depuis cette période-là, a reculé d'une trentaine de mètres. Donc on peut dire que la morphologie du cordon littoral n'a pas drastiquement changé au cours de cette période-là. Si on regarde aussi les cartes cassinées, eh bien, là encore, rebelote. Hein, on a une morphologie du cordon littoral qui n'a pas drastiquement changé. Hein, je vous rappelle qu'on enregistre des dépôts sédimentaires jusqu'à 500 mètres derrière le cordon littoral. Bon, donc, en effet, eh bien, cette hypothèse, on l'a fait en disant qu'il existe en effet des périodes inactives et des périodes actives. Alors, la période active du 18e et 19e siècle correspond à une période que l'on appelle le petit âge glaciaire. Je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, on va changer complètement d'environnement. On était sur les reconstitutions des tempêtes du passé, sur le littoral. Cette fois-ci, on migre sur le bassin versant, et plus particulièrement dans le Gard, sur le bassin versant du Gardon. Vous êtes ici, dans les gorges du Gardon, entre Sagnac et Poulx, au nord de Nîmes. Alors, ce qui est relativement intéressant sur cette photo, c'est que l'on trouve encore aujourd'hui, hein, cette photo a été prise il n'y a pas très longtemps, eh bien, on trouve les traces de la crue de 2002. Hein, c'est ce changement de couleur de végétation que vous avez ici dans le paysage. Hein, l'événement de 2002 a complètement arraché la végétation sur une hauteur d'une vingtaine de mètres. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est cette nouvelle végétation qui repousse après avoir été complètement détruite. Donc, comment reconstituer des crues du passé? Alors, il y a plusieurs approches. Un certain nombre de collègues travaillent sur les traces, les surfaces d'érosion sur les parois rocheuses. D'autres travaillent sur les barres de gravier, puisqu'il existe un lien entre l'hydrodynamisme, l'intensité de l'hydrodynamisme et la hauteur de ces barres de gravier. D'autres travaillent sur les traces d'impact sur les troncs. En fait, au moment d'un événement de crue intense, vous avez des déplacements de galets qui viennent choquer ces troncs d'arbres et laisser des cicatrices dans les cernes. Un certain nombre de collègues travaillent justement sur ces cernes pour pouvoir reconstituer des hauteurs d'eau liées à des événements de crue du passé. Et enfin, vous avez des dépôts sédimentaires de crue le long des rivières, au niveau de ce qu'on appelle des terrasses, ou dans des cavités qui sont perchées en hauteur. Donc c'est principalement là-dessus que nous avons travaillé. Alors sur trois sites principalement qui sont localisés à des hauteurs différentes. Alors vous verrez, hein, je vous montrerai quelques images d'une terrasse que l'on étudie en aval du pont Saint-Nicolas entre 0 et 5 mètres. Une autre terrasse qui se situe entre 5 et 10 mètres de hauteur au niveau de la Baume Saint-Vérédème et une cavité perchée à 15 mètres de hauteur au niveau du site de Barbegraise. Alors, le travail que nous effectuons, hein, par exemple sur cette terrasse, c'est le nettoyage d'une coupe et l'identification, hein, je ne sais pas si vous le voyez d'où vous êtes, mais l'identification et l'analyse de ces différents dépôts de crue que vous observez ici. Donc ça, c'est l'étude sur une deuxième terrasse qui est cette fois-ci au niveau de la Baume Saint-Vérédème et qui se situe entre 5 et 10 mètres de hauteur. Et là encore, hein, nettoyage de la coupe, échantillonnage, datation et identification des différents événements de crue. Et enfin, donc ce travail sur cette cavité au niveau de la grotte de Barbegraise, donc c'est une fosse que l'on effectue. Et nous étudions ici les différents dépôts sédimentaires de crues. Alors, je vais vous présenter principalement des travaux issus de l'étude de cette cavité. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur les extrêmes Et cette cavité est à 15 mètres de hauteur et n'enregistre que les événements de très forte intensité. Alors on a pu montrer, je ne sais pas si vous le voyez, mais les 2-3 premiers centimètres sont associés à l'événement de 2002 et juste en dessous, on voit l'événement de 1958, qui sont les deux événements les plus importants au cours du XXe et début du XXIe siècle. Alors, sur ces 1 mètre de fosse, donc là, le premier travail, c'est d'établir ce qu'on appelle un log lithostratigraphique, où on va identifier un certain nombre de dépôts fins en pointillés et un peu plus grossiers, plus sableux en points noirs. Nous avons aussi étudié, alors, l'étude de ce log lithostratigraphique nous permet de montrer que nous avons ici 21 crues enregistrées. Nous avons aussi étudié, là encore, la granulométrie de ces dépôts. Donc, ce qui est relativement intéressant, c'est que le dépôt de 2002 est caractérisé par une granulométrie qui tourne autour de 125 micromètres. C'est la taille du grain, qui est un sable moyen, on va dire. Alors, ce que l'on a pu constater à partir de l'étude de plusieurs sites, c'est que plus l'événement était intense, plus la granulométrie, la taille du grain, était importante. Hein, puisque pour amener un grain grossier à une certaine altitude, il faut une certaine énergie, un certain hydrodynamisme, et plus on a un événement intense, plus on va apporter des grains grossiers en très haute altitude. Alors, de manière assez simplifiée, mais qui nous donne déjà une première idée, tout ce qui a une granulométrie en termes de dépôt supérieure donc à ces 125 micromètres, on peut faire l'hypothèse qu'ils ont une intensité supérieure ou égale, en tout cas, enfin supérieure même, à l'événement de 2002. Et là, on enregistre 8 événements, dont 1, 2, 3, 4, 5, là c'est certain, d'une intensité supérieure à l'événement de 2002. Alors, bien sûr, il faut dater tout ça. Et là, on a plusieurs approches. L'approche archéologique, nous avons des collègues qui nous aident pour ces approches. Vous pouvez observer, par exemple, ici, la présence d'un morceau de pipe de Saint-Pautry-les-Cantins, par exemple, du 20e, 19e siècle. Vous avez aussi après des tessons, jusqu'à des tessons médiévaux qui ont été découverts à 1 mètre de profondeur. Autre échelle de temps définie par le césium 137, là encore, le plomb 210 et le carbone 14 que vous avez ici. Et vous avez ici une échelle de temps, alors qu'on pourrait encore affiner. Et là encore, je dirais, même information, on observe une augmentation de ces événements de très forte intensité en termes de crues cette fois-ci au cours de cette période que l'on appelle toujours le petit âge glaciaire. Alors là encore, avec des évidences au niveau des archives textuelles, par exemple l'événement de 1403, cet événement a mis en charge le pont du Gard. La hauteur d'eau était au-dessus du premier étage au niveau des arches, alors que l'on sait qu'en 2002, la hauteur d'eau était sous les premières arches, sous le premier étage. Alors, reconstitution des tempêtes du passé, reconstitution des crues du passé à partir de l'étude des archives sédimentaires. Et donc, nous travaillons aussi avec un collègue, Philippe Blanchemanche, de Latte, qui est associé à l'Université Montpellier 3, et qui travaille, lui, sur les archives textuelles historiques. Alors, je vous présente ici, alors il fait un travail fabuleux, j'ai eu l'occasion de l'accompagner aux archives départementales. Donc, sur les textes les plus anciens, la date, je n'arrivais pas à la lire. Donc, lui, non seulement arrive à lire, mais fait de la lecture rapide avec des termes qui vont évoluer dans le temps. Donc, c'est assez difficile. Bon, là, c'est un texte qui est lisible quand même, qui date du XVIIIe siècle, du 3 décembre 1766. C'est un extrait des libérations consulaires. Alors, il est dit dans ce texte, concernant un événement d'inondation, le premier consul a dit qu'il ne pouvait, sans s'attendrir jusqu'aux larmes, rappeler à l'Assemblée les tristes moments où chacun craignait autant pour sa vie que pour son bien, ayant à essuyer un orage de plus de 40 heures et une pluie excessive durant 7 jours consécutifs. Et là, ce qui est assez marquant, c'est qu'on retrouve les mêmes termes que les gens utilisent quand ils subissent aujourd'hui une catastrophe. De mémoire d'homme, on ne vit jamais cette grande abondance d'eau qui ont tout inondé et ravagé. Les semences ont été emportées, les champs écharpés, les prairies engravées, les mûriers ont été déracinés, les chemins sont rompus, des maisons se sont écroulées. Alors, le travail de Philippe, ça a été de quantifier le nombre de crues annuelles sur différentes rivières qui sont, et fleuves, qui sont l'Hérault, l'Orble, la Mosson, le Lèze, le Vidourle et le Vistre, depuis 1600 jusqu'à 1950. Et il a aussi essayé de classifier ces crues en fonction de l'intensité. La classe 1, c'est une crue de faible intensité, on va dire, et la classe 3, c'est un événement de plus forte intensité. Donc, ce qui est représenté ici. Et il met en évidence donc une augmentation de ces événements de crue de plus forte intensité au cours du XVIIIe et XIXe siècle, qui correspondent là encore à cette période du petit âge glaciaire. Alors, qu'est-ce que le petit âge glaciaire ? Le petit âge glaciaire, c'est une période de coup de froid sur l'Europe. Alors, vous avez ici un graphique qui vous représente une estimation de l'évolution des températures moyennes sur la zone européenne depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, à partir de différents traceurs comme les pollens, les cernes d'arbres, etc. Alors, ces proxys mettent en évidence une augmentation des températures pendant la période médiévale, l'optimum climatique médiéval, c'est a priori plus chaud, puis à partir de 1400, un fort refroidissement de l'Europe, puis ce réchauffement que l'on a sur les dernières décennies. Alors ce coup de froid sur l'Europe, eh bien, il est attesté par des peintures qui montrent ici l'extension des glaciers pyrénéens. On a aussi une extension des glaciers alpins, pardon, mais on a aussi une extension des glaciers pyrénéens. Vous avez aussi ces peintures hollandaises qui attestent de ce gel des canaux. Vous avez aussi des fêtes votives sur le fleuve le Thames à Londres. Au niveau régional, au niveau de Marseille par exemple, alors ça ce sont des reconstitutions de température à partir de l'étude des pollens qui mettent en évidence un refroidissement au cours de ce petit âge glaciaire. Et ici vous avez des travaux d'un Italien, Camuffo, qui met en évidence, qui a estimé le nombre de jours de gel de la lagune de Venise avec des bateaux qui se sont retrouvés coincés dans ces glaces. Et là encore, donc, augmentation très forte du nombre de jours de gel de la lagune de Venise entre 1400 et 1900. Au niveau régional, on a des textes qui nous disent que l'étang de Thau est gelé l'hiver, qu'il peut être traversé à pied, et des attaques de loups dans certains faubourgs de villages au niveau de l'Hérault. Les loups n'ont plus rien à manger sur les côtes et donc descendent dans les vallées pour venir grignoter. Donc ça tombe au moment du loup des Gévaudans, donc je ne sais pas est-ce qu'il y a un lien entre cette histoire et le climat. Bon, tout ça pour dire, alors, a priori, cette multi-approche au niveau des archives sédimentaires lagunaires, archives sédimentaires au niveau des gorges du Gardon et ces textes historiques mettent en évidence des événements de crues et de tempêtes beaucoup plus intenses pendant le petit âge glaciaire. Alors maintenant, on ne s'arrête pas là. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on pourrait avoir plus d'événements de forte intensité pendant cette période froide. Alors pour cela, nous travaillons avec des modélisateurs du climat, avec des collègues de Toulouse, Météo France et le CERFAX à Toulouse, ainsi que l'IPSL à Paris. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes physiques météorologiques qui pourraient expliquer cette augmentation d'événements de forte intensité pendant le petit âge glaciaire. Alors, plusieurs hypothèses, et ce sont vraiment des travaux qui sont en train de se faire en ce moment, donc pas achevés. Alors, plutôt que vous présenter toutes les hypothèses, je ne vous en présente qu'une, qui sont les travaux d'un collègue, qui vous présente... Alors, ici, vous avez les résultats d'une différence de température entre un climat du petit âge glaciaire au XVIIIe siècle et d'un climat en 1990. C'est une différence des deux climats sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Donc c'est les résultats d'un modèle climatique. Vous avez ici les États-Unis, vous avez ici le Groenland, vous avez ici la Sibérie, l'Europe, l'Afrique. Alors les résultats de ce modèle met en évidence un très fort refroidissement de l'Arctique, et plus particulièrement entre le Groenland et la Norvège. Vous avez un refroidissement de température moyenne qui sont de l'ordre de 8 degrés. et aussi un refroidissement du nord de l'Europe. Alors, les résultats finaux de ce modèle mettent en évidence que vous avez ici, c'est une augmentation très forte des précipitations du champ de vent, plutôt dans la zone méditerranéenne. Alors, quels sont les mécanismes plus fins derrière ? Aujourd'hui, de manière au niveau météorologique, le champ de dépression, le chapelet de perturbation, se situe plutôt au niveau des îles anglo-normandes. Ce que simule ce modèle, c'est que pendant le petit âge glaciaire, le front polaire va descendre vers le sud. Et le chapelet de dépression descend beaucoup plus au sud, au niveau du Portugal et de l'Espagne. Lorsque vous avez des dépressions, ce chapelet de dépression, quand il arrive sur l'Espagne, les vents tournent autour de cette dépression en sens antihoraire et donc arrivent en flux de sud dans le golfe du Lion. Et donc, pourrait expliquer ces augmentations statistiques de flux de sud qui génèrent des événements méditerranéens et des événements cévenols, par exemple. Alors, je voudrais conclure sur deux réflexions. Une première réflexion sur la notion de prédiction, de manière très générale. Si on reste sur ces résultats, on constate qu'un climat plus froid, c'est plus d'événements extrêmes en Languedoc, crues et tempêtes. Donc on peut imaginer qu'un climat plus chaud, comme on l'observe aujourd'hui, c'est moins d'événements extrêmes en Languedoc. Alors c'est un peu dangereux de dire ça, pourquoi ? Parce que le climat n'est pas un système linéaire, malheureusement. Le climat n'est pas un système linéaire, il est fortement rétroactif, c'est-à-dire qu'une perturbation du système climatique peut le faire changer de configuration. On peut avoir un changement de seuil et avoir une configuration de climat complètement différente sur la Méditerranée. Alors je vous donne juste un exemple. Donc a priori, on pourrait se baser là-dessus. Climat plus froid, plus d'événements extrêmement Languedoc, climat plus chaud, moins d'événements extrêmement Languedoc. Sauf si les températures augmentent, les températures de l'atmosphère augmentent, les températures des eaux de surface augmentent jusqu'à atteindre un certain seuil, le seuil des 27 degrés sur une profondeur de 60 mètres, et on pourrait voir arriver ces fameux, ce qu'on appelle, alors ce qui a, paraît-il, été vu l'année dernière, ce qu'on appelle les Tropical Lake Mediterranean Storms, c'est-à-dire ces sortes de cyclones qui sont de type tropicaux avec un cœur chaud à l'intérieur, un œil à l'intérieur. Alors ça, voilà, donc il est nécessaire de continuer nos observations, de continuer les modélisations pour voir si on peut générer ce type d'événement en Méditerranée. Et si c'est le cas, eh bien nos conclusions qui étaient relativement intéressante pour le Languedoc en disant qu'on irait vers une période avec moins d'événements extrêmes, eh bien dans ce cas-là, on pourrait dire le contraire, malheureusement. Deuxième point de réflexion sur la notion de risque. Alors, le risque, c'est la combinaison de deux choses qui sont l'aléa et l'enjeu. Je l'ai appelé aussi vulnérabilité. L'aléa, c'est quoi ? C'est l'événement de tempête, l'inondation, la crue. L'enjeu ou la vulnérabilité, c'est la population, ce sont les infrastructures humaines. Si vous avez une succession de tempêtes intenses sur une zone fortement peuplée, le risque est très fort. Si au contraire, vous avez très peu d'événements sur une zone qui n'est pas peuplée du tout, le risque est très faible. Alors dans notre cas, c'est un petit peu plus complexe. Alors nous avons reconstitué à partir de ces études d'archives historiques, la population en 1709 sur le littoral. Et vous pouvez constater qu'il n'y avait quasi... la population était quasi inexistante sur ce cordon littoral. Entre autres, pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de paludisme sur ces régions-là. Donc, population très faible sur le cordon littoral, mais comme je vous le montrais tout à l'heure, des tempêtes très intenses. Donc, on peut avoir un aléa relativement fort, mais si vous n'avez pas de population sur le littoral, le risque est faible. Dans le deuxième cas, pour la carte de 2005, vous avez une explosion de population sur le cordon littoral. On peut avoir moins d'événements, de plus faible intensité, mais cette explosion de population fait que la vulnérabilité est plus importante et donc finalement le risque plus fort. On peut donc avoir des risques plus forts alors que les aléas sont plus faibles. Et la question que je me pose quand on écoute les différents médias, à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, de submersion, de tempête, de crue, etc., c'est souvent à cause du changement climatique. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous ne voyons pas plutôt une augmentation de la vulnérabilité ? On construit n'importe où, on a construit n'importe où, sur le littoral, dans des zones inondables, et finalement, eh bien, c'est plutôt la vulnérabilité qui a augmenté plutôt que l'aléa. Donc, trois conclusions pour terminer. Les événements météorologiques extrêmes récents inscrits dans les esprits de tous ne sont probablement pas aussi puissants que ceux enregistrés lors des siècles précédents. Les archives sédimentaires et textuelles mettent en évidence une augmentation de tempêtes et crues extrêmes pendant le petit âge glaciaire. Et les mécanismes climatiques ne sont pas encore complètement contraints. Il est nécessaire de travailler sur ces aspects pour pouvoir prédire l'évolution de ces événements météorologiques dans un futur proche. Voilà, je vous remercie de votre attention.
L'Agora des savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.